Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café LNH, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, heureux de vous parler en ce 21 mai. On connaît maintenant le carré d'as des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2024. On a quand même dû attendre jusqu'à très tard hier soir, même très tard dans le match. Mais les Oilers d'Edmonton ont finalement été la quatrième équipe à obtenir son billet pour les finales d'association en battant les Canucks de Vancouver 3-2 dans ce qui était le septième match de la série. Les Oilers qui vont se mesurer aux Stars de Dallas, alors que dans l'Est, les Rangers de New York ont rendez-vous avec les Panthers de la Floride. Ça commence mercredi soir, cette série-là dans l'Est. Donc aujourd'hui, au balado, on revient sur les quatre séries de la deuxième ronde. On va vous offrir une analyse complète de ce qui s'en vient justement en finale d'association. On va vous offrir nos prédictions. Jean-François Chaumont et Guillaume Lepage seront avec moi. On va aussi vous parler de l'embauche de Greg Berube chez les Maple Leafs de Toronto. Est-ce que c'est l'entraîneur parfait pour relancer cette équipe-là? On va parler de ça en deuxième portion d'émission. Avant de commencer, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de balado à peu près qui peuvent exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver là, Apple, Spotify, Google, pour ne nommer que les principales. Faites une recherche, vous allez nous trouver et abonnez-vous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado. Alors, on lance l'émission, mes deux invités aujourd'hui. Le premier, on le rejoint en direct de New York, où il est au centre d'entraînement des Rangers présentement, Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Bonjour, monsieur.
Ça va bien?
Très, très bien. Et beau vol Montréal-New York, 20 minutes à l'avance avec Air Canada. Ça, on est toujours heureux.
Wow.
Ensuite, destination Tarrytown, qui est à peu près l'équivalent de Shawinigan pour Montréal, tellement que c'est loin par rapport à LaGuardia. Mais on est arrivé, sain et sauf.
Good. Et le wow que vous avez entendu, c'est Guillaume Lepage, qui lui est à Montréal, mais seulement pour quelques heures encore. Tu t'en vas vers Dallas pour couvrir la finale de l'Ouest dans pas très long.
Yes, salut messieurs.
Et salut messieurs. On y va tout de suite. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé en deuxième ronde. Tout d'abord, dans l'Ouest, on va faire l'Est par la suite dans l'émission. Ça s'est terminé hier, la série entre les Canucks et Oilers. Il a fallu attendre quand même jusqu'à presque à la dernière seconde pour avoir un résultat parce que quand même, les Canucks, leur jeu, quand tu regardes les statistiques, quand tu regardes les lancers, c'est pas une équipe qui, on se dit, est capable d'aller très loin. Elle aurait pas dû amener ça en sept matchs, tout ça, mais au final, c'est ce qui s'est passé. On est passé à un but ou à deux buts, selon comment on voit ça, de battre les Oilers.
Mais c'est une équipe qui n'abandonnait jamais. Puis on l'a bien vu dans cette série, là, hier, 3-0 pour les Oilers. On croyait qu'on pouvait fermer les livres, partir se coucher tranquille. Mais dès que les Canucks ont marqué un but, on a senti les Oilers devenir plus nerveux. Ils ont réussi avec le but de Philippe Ronek, à se retrouver à un seul but d'écart, 3-2. Puis encore une fois, Arthur Seelov, si c'est pas des vols de Seelov dans ce match-là, les Oilers se sauvaient bien plus rapidement. Ils auraient pu mener 4-5-0. Je crois qu'Edmonton était la meilleure équipe dans cette série 4-7 pour la majorité des matchs, mais Rick Tocchet a réussi à amener sa sauce, ses épices aux Canucks de Vancouver. Puis le dernier match, là, c'était quand même une très, très lourde perte de jouer un septième match sans Brock Besser, qui était un des meilleurs attaquants des Canucks. C'est lui qui pouvait être la plus grande menace, bien souvent, en supériorité numérique. On l'a vu hier aussi, sans Besser, les Canucks, chaque fois qu'ils ont profité d'avantages numériques, ça a été tout simplement catastrophique. Mais ils se sont battus jusqu'à la dernière minute. Bravo aux Canucks de Vancouver.
Est-ce qu'on sous-estime un peu la performance des Oilers? En ce sens que je regardais hier le match, puis au niveau du temps de possession en deuxième période, c'était la même chose des deux côtés, mais les lancers étaient 26-7. On parle du temps de l'attaque des Oilers, mais il reste que défensivement, là, c'était pas facile d'envoyer des rondelles sur Stuart Skinner. Il y avait beaucoup de jeux de bâton, pas seulement des tirs bloqués, mais bloquer des lignes de lancer, utiliser le bâton pour vraiment venir enlever la rondelle. Il y a eu un superbe effort qui fait que Skinner n'a pas reçu beaucoup de tirs. Une chance parce qu'il y en a beaucoup qui ont rentré, mais un peu comme ce qu'on a vu dans d'autres séries, à un moment donné, quand t'es jamais appelé à faire des arrêts, à un moment donné, ça devient plus difficile de réagir. Il y a des gardiens qui sont bons quand ça leur prend un certain rythme d'action, puis c'est ce qui manquait là, pour Skinner.
Ah, puis c'est une bonne nouvelle quand Stuart Skinner reçoit pas beaucoup de tirs, surtout en ce moment. Là, honnêtement,
Calvin Tickard a même joué dans la série, là.
Exact, c'est un gros point d'interrogation du côté des Oilers. Mais tu sais, T'as raison de souligner le travail défensif de l'équipe parce que c'est ce qui permet. C'est souvent sous-estimé. On parle des Oilers, on parle de l'attaque, mais vraiment, ces prestations-là, dernièrement, sont assez convaincantes. Puis, ben, c'est ça. Si on regarde vers l'avant, ben, on regarde devant le filet des Oilers. Pour moi, c'est ce qui pourrait faire pencher la balance du côté des Stars en finale de l'Ouest parce que. Jusqu'à maintenant, bon, Stuart Skinner est revenu quand même fort dans la série, a signé les deux dernières victoires des siens, mais pour moi, ça reste encore à prouver là, contre une équipe de gros calibre comme les Stars. Ça va être un bon défi pour lui, puis c'est ce que j'ai hâte de voir dans la prochaine série.
Il faut quand même souligner l'audace de Chris Knobloch. Il n'a pas eu peur d'asseoir Skinner quand ça commençait à glisser. Il a donné deux départs à Calvin Pickard, troisième, quatrième match. Pickard a gagné un match dans cette série-là. Il a fait son travail comme gardien numéro 2. On parlait quand même d'un gars de 32 ans qui avait une expérience en séries éliminatoires de 16 minutes. Il était venu en relève à Stuart Skinner dans le match précédent, donc n'avait jamais joué en série. Mais quand il est venu le temps, les matchs 6 et 7, il a redonné le ballon à son gardien numéro 1, à Stuart Skinner. Puis une autre décision aussi qu'on a peu parlé, mais il a quand même eu le courage de dire à Corey Perry, « Corey, oui, tu as de l'expérience, mais en ce moment, tu n'avances pas contre les Canucks. On va décider d'y aller avec Carrick, qui amenait beaucoup d'énergie au sein d'un quatrième trio. Plus, malheureusement, que Corey Perry, on a beau l'avoir aimé à Montréal, Corey Perry approche 106 ans, si je ne me trompe pas. Donc, le poids des années aussi vient quand même le ralentir. »
Tu as parlé des Stars. Passons là, à la série suivante, ce qu'il y avait en deuxième ronde, l'Avalanche contre les Stars. On aurait eu besoin de 6 matchs pour mettre un terme à cette série-là, mais j'ai trouvé que tout le long de cet affrontement, ces 6 matchs-là, rarement l'Avalanche a réussi à jouer 60 minutes. Puis Cale Makar en a parlé. On dirait toujours que ça décrochait à certains moments. Puis cette série-là aurait pu se terminer en 4 quand on regarde ça. Quand on regarde comment c'est, le déroulement c'est de cette série-là, le premier match qui est allé, qui a eu des remontées, ça a toujours pris des remontées, mais il reste que cette série-là aurait pu être terminée en 4.
Ouais, les Stars ont été vraiment convaincants là, de ce que j'ai vu à travers la série que je couvrais entre les Bruins et les Panthers. Là, les matchs que j'ai eu l'occasion de voir ou les portions de match, honnêtement, les Stars sont vraiment impressionnants. Le rythme avec lequel ils jouent et tout ça. J'étais un de ceux qui croyaient que l'Avalanche allait sortir gagnant de cette série-là parce que justement, en raison de l'expérience, en raison d'un Nathan MacKinnon qui est toujours un élément clé qui fait la différence en série. Mais là, de voir la manière dont les Stars ont joué puis ont contrôlé cette série-là, tu sais, puis c'est aussi le calme qu'ils ont démontré. Peu importe la situation, on ne sentait pas que cette équipe-là était dépassée par les événements. Puis de sortir une équipe dont le noyau, quand même, bon, ça a changé, là, mais récemment a gagné la Coupe Stanley. C'est un gros défi. Les Stars l'ont fait, puis avec les parcours des dernières années, j'ai l'impression que c'est une équipe justement qui était vraiment à maturité puis qui arrive à cette étape-là, elle aussi, d'aspirer vraiment à la Coupe Stanley. Vraiment une prestation convaincante. Moi, je change mon fusil d'épaule. Là. Je les avais éliminés dans cette ronde-là, mais pour la suite, je pense que les Stars m'ont convaincu. Là.
Moi, je suis d'accord avec Guillaume. On, souvent, on a parlé de la profondeur des Rangers, on parle de la profondeur des Panthers, de la Floride, mais c'est la même chose avec les Stars de Dallas. Il y a un équilibre à l'attaque. Cette équipe-là peut être dangereuse du premier au quatrième trio. Là, il y a Mason Marchman aussi qui est en santé en ce moment. Si Pavelski peut prendre un petit peu son envol, on en a parlé souvent, mais c'est l'éclosion en série pour Wyatt Johnston. Jason Robertson est un des bons joueurs de la Ligue nationale. Moi, en début d'année, j'avais prédit une finale Rangers-Oilers. Je suis une tête dure. Je garde la même prédiction, Rangers-Oilers en finale. Simplement pour voir Guillaume grogner tout le long qu'on ferait le voyagement entre New York et l'Alberta. Moi, ça ferait mon bonheur. Ouais. Mais non, je serais un petit peu vire-capot si j'avais à oublier ma prédiction du début de la saison. Je pense sincèrement que les Stars de Dallas sont plus de munitions qui vont venir à bout des Oilers. Puis même les Oilers, c'est toujours la même histoire. T'as Draisaitl, t'as McDavid qui vont mener le bateau. Ils ont déjà plus de 20 points chacun. T'as Evan Bouchard aussi qui connaît des séries extraordinaires. Mais après, les gros canons, ils vont vraiment avoir besoin de Ryan Nugent-Hopkins, ils vont avoir besoin d'Evander Kane. Puis je suis pas convaincu que ces deux joueurs-là vont connaître une bonne série face aux Stars.
Quand je regarde un peu ce qui s'est passé contre l'Avalanche, les Stars, il y a 9 joueurs qui ont amassé 4 points en 6 matchs dans cette série-là. Si on compare avec l'Avalanche, là, il y en a seulement 3. On parlait de profondeur, on parlait vraiment que c'est la force des Stars. Puis je pense vraiment que c'est l'équipe qui a la meilleure profondeur dans tout, dans celle qui reste en série. Mais celui qui s'est vraiment signalé, là, c'est Miro Heiskanen dans cette série-là. On attend toujours Cale Makar, mais je pense qu'Heiskanen a été meilleur que Makar durant cette série-là. Il a été vraiment là, incroyable. C'est encourageant de voir parce qu'on dit depuis longtemps qu'Heiskanen est un excellent défenseur, puis c'est vrai, mais je le mettais jamais dans la classe de Quinn Hughes, de Cale Makar, parce qu'offensivement, manquait un peu de production. N'était pas nécessairement toujours placé non plus sur le premier avantage numérique, tout ça. On se souviendra quand c'était Klingberg qui était là. Ben Klingberg, défensivement, comme c'était plus difficile, on lui donnait le jeu de puissance. Mais là, vraiment, en série éliminatoire et dans cette série-là contre l'Avalanche, a été superbe. Puis l'autre défenseur qui s'est signalé, à mon avis, c'est Chris Tanev. On a été le chercher. On parle d'acquisitions qui n'ont pas nécessairement fait un gros boom là, à la date limite des transactions. Mais Chris Tanev est un des très, très bons défenseurs défensifs de la Ligue. Puis contre les gros canons de l'Avalanche, ça a été vraiment... Là, je pense que c'est la pièce cachée, la carte cachée, oui, des Stars pour le reste des séries éliminatoires, c'est le jeu de Chris Tanev contre les gros morceaux de l'équipe adverse.
Mais Nick, tu parlais de Miro et Scannon, mais quand les Stars ont atteint la finale dans la bulle, Scannon avait quand même eu 26 points en 27 matchs. 6 buts, 20 passes. En ce moment, c'est 13 points en 13 matchs, 28 minutes de temps de jeu. Je pense que c'est le type de défenseur que la confrontation contre Cale Makar, il a aimé le défi.
Ouais.
Les deux viennent de la même QV au repêchage. Heiskanen avait été le troisième choix. Makar avait été le quatrième choix. C'est deux patineurs tout simplement extraordinaires. Mais je crois que sa brigade défensive aussi, Heiskanen était mieux entouré. Makar, j'avais le sentiment qu'il devait tout faire comme McKinnon et Mikko Rantanen pour transporter cette équipe-là, tandis que Heiskanen, il y avait plus de bons joueurs à ses côtés.
Surtout avec la perte de Devin Toews. On a parlé de Nichushkin aussi qui a quitté. Donc, l'Avalanche, tout a tombé là, durant cette série-là et vraiment, là, ça a été mérité pour les Stars. Ben, on y va. Cette finale d'association, les Stars contre les Oilers. Quand on regarde, et vous en avez parlé un peu, mais quand on regarde les forces en présence, on a parlé de la profondeur des Stars versus celle des Oilers. Est-ce que la série, parce que là, GF, on a déjà compris, tu as dit que les Oilers vont l'emporter. Guillaume. Dans le fond, vous avez déjà donné une partie de votre prédiction. Mais quand vous regardez, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qui va faire la différence dans cette série-là?
Ben, ce qui va faire la différence, en partant, tu as une confrontation entre Jake Oettinger et Stuart Skinner. Stuart Skinner est davantage un point d'interrogation à mes yeux que Jake Oettinger. Sinon, ce qui va faire la différence, si les Stars font moindrement le même travail que les Canucks contre Connor McDavid, pour moi, les Stars vont sortir grands gagnants de cette série. Ça peut paraître fou ou paradoxal, mais McDavid doit être meilleur. Oui, il y a une vingtaine de points depuis le début des séries, mais 3 matchs sur 7 contre les Canucks où il n'a pas inscrit son nom sur la feuille de pointage, c'est rare pour Connor McDavid, mais les Canucks avaient la bonne façon de le contrer, de le ralentir. Ça peut paraître simpliste, mais Rick Tocchet, en début de série, avait dit « Contre McDavid, il faut toujours patiner par en avant contre lui. Je ne veux pas voir un défenseur être de reculons ou un attaquant parce qu'il va se faire manger. » Puis on dirait qu'ils ont réussi à avoir les bons angles, les bonnes contre-attaques contre McDavid pour le contrer. Puis c'est toujours le même dilemme. Est-ce qu'ils vont placer les deux canons au sein du même trio? Est-ce qu'on va finir par voir McDavid et Léon ensemble, ou si on va les séparer comme en fin de série, les deux jouaient chacun la position de centre. Mais pour moi, Draisaitl, même s'il probablement cache une blessure, a été meilleur que McDavid contre les Canucks. La clé pour les Oilers, c'est de voir un McDavid encore plus dominant en finale de l'Ouest.
Mais est-ce que McDavid... Bon, ils sont énormément utilisés, McDavid et Draisaitl, alors que les Stars arrivent pleinement reposés. Est-ce que justement ce taux d'utilisation-là pour ces deux vedettes-là va finir par les rattraper dans cette série-là contre une équipe qui peut t'envoyer un trio différent. Là. C'est pas tout le temps d'être obligé d'être le même match-up là, contre eux.
Ben, je peux sonner sévère là, pour McDavid. Il a 21 points en 12 matchs. Là. On parle de très bonnes séries. Il y a deux buts, par contre. McDavid joue près de 23 minutes depuis le début des séries. Quand on posait la question à Chris Knobloch, quand j'étais du côté d'Edmonton au dernier tour, Knobloch disait tout le temps, on ne peut pas comparer McDavid avec le commun des mortels, avec les autres joueurs. C'est un phénomène. Il peut en prendre. Il peut manger des minutes. Mais le long parcours, 7 matchs, il y a de l'usure aussi. On verra. C'est une série qui va être hyper intéressante. Mais l'autre point aussi, les Stars doivent faire attention. Ils le savent. Le jeu des Oilers en supériorité numérique reste très, 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 très dangereux.
Moi, je trouve que l'élément fatigue, l'élément à utilisation des gros canons, je pense que c'est ce qui va faire la différence. Aussi, peut-être, on vient de perdre beaucoup d'énergie là, dans cette série-là contre les Canucks. C'est une série qui a été plus longue mm-hmm. que prévu, je pense, pour les Oilers. On a quand même 6 joueurs là, qui ont une utilisation de plus de 20 minutes par match, dont c'est tous les gros canons de l'équipe. Donc, ouais, je me dis, une fois arrivé contre les Stars, ben là, le réservoir, d'après moi, il va être un peu vide. Puis c'est pour ça que j'y vais avec les Stars en 5 matchs. J'y vais rapidement, mais je crois vraiment que les Oilers ont perdu trop d'énergie dans la série contre les Canucks.
Et est-ce que vous croyez, en terminant, Guillaume a déjà donné sa prédiction, avant la tienne, Jeff, l'expérience de Peter DeBoer derrière le banc, je pense que c'est sa 5e finale d'association en 6 ans avec 3 équipes différentes, contre Chris Knobloch, qui est un entraîneur recru. Est-ce que ça, c'est déjà là, on part avec un gros avantage? Surtout quand je regarde les changements qui ont été effectués contre les Golden Knights, quand ça allait pas bien, on a vraiment trouvé les bons ajustements pour se replacer sur le bon chemin. Ou si on n'a pas craqué sous la pression en deuxième ronde, un entraîneur d'expérience comme ça, à quel point ça change la donne et ça donne un avantage justement aux Stars?
Oui, ça peut être une carte avantageuse. Si on regarde le carré d'as, là, Peter Laviolette a beaucoup d'expérience. Paul Maurice, énormément d'expérience. Pete DeBoer aussi. Chris Knobloch détonne un petit peu parmi les 4. Mais moi, je trouve qu'il a fait son travail contre les Canucks. Il a pas paniqué non plus. Il a choisi d'y aller avec des décisions aussi courageuses, audacieuses. Est-ce que l'expérience, je pense que ça peut être surévalué aussi, bien honnêtement. Là. Okay. T'as beau avoir le meilleur entraîneur derrière le banc, t'es aussi bon que les joueurs que t'as devant toi. Puis si Skinner bloque pas de rondelles, bien, les Oilers vont être dans le trouble. Je garde ma prédiction tête dure, donc les Oilers d'Edmonton en 6. Mais s'il y allait moindrement avec une tête plus intelligente, je dirais les Stars de Dallas. Mais bon. Sur le site de la Ligue nationale, vous allez lire Oilers en 6.
C'est bon. Et moi, dans mon cas, ben, ma prédiction est j'y vais avec les Stars en 6. Je pense que, comme vous avez dit, là, ça va se régler assez rapidement. Messieurs, c'est maintenant complété pour l'association de l'Ouest. On passe à ce qui s'est passé dans l'Est durant la deuxième ronde. Les Bruins de Boston qui avaient rendez-vous avec les Panthers de la Floride. Un duel qu'on trouvait déjà avant à l'avantage des Panthers et ça s'est pas amélioré durant la série parce qu'on a perdu Brad Marchand du côté des Bruins. Donc oui, on a chèrement vendu notre peau chez les Bruins. Oui, on a joué du bon hockey défensif, mais c'est au final, ça leur a pas été suffisant là, pour les Bruins. Guillaume, tu as été à la couverture de la série. Là. Bon, ça a été quoi ta lecture de ce duel-là?
Oui, on a joué de façon assez serrée du côté des Bruins, mais au final, c'est le manque d'attaque qui a coûté vraiment la série à cette équipe-là. On avait vu un peu un ralentissement là, vers la fin de la série contre les Maple Leafs au premier tour, avec les trois derniers matchs qui s'étaient terminés 2-1. Dans la série contre les Panthers, il y a seulement un match au cours duquel on a marqué plus de 2 buts, puis c'était le premier, la victoire de 5-1, là, où les Bruins étaient encore sous le coup de l'émotion. Ouais. Tout fonctionnait dans ce match-là, mais après ça, on est tombé vraiment en panne. Ça a été maximum 2 buts par match pour le reste de la série. Donc, contre une équipe comme les Panthers, ça devient assez difficile d'espérer gagner là, quand tu marques seulement 2 buts par match. Oui, Sergei Bobrovsky a fait les arrêts, a été quand même bon au bon moment, là, mais j'ai pas l'impression là, du côté des Bruins, on a réussi vraiment à trouver la façon d'amener plus de rondelles au filet puis de déstabiliser cette défensive-là qui est vraiment très, très structurée, qui laisse pas beaucoup de chance de grande qualité à l'adversaire. Puis c'est ça, au final, je pense que c'est peut-être aussi un au niveau de talent, là, quand tu compares les deux équipes, le talent brut, je pense que du côté des Bruins, on avait quand même une belle profondeur. On avait des joueurs qui sont capables de faire le travail, mais on n'avait pas de nécessairement de game breaker. Là. Tu sais, un Pasternak n'a pas réussi à prendre le dessus sur cette série-là. Puis je pense que c'est ce qui a fait la différence au bout du compte.
Parlons-en justement de la performance de Pasternak. Est-ce qu'on peut qualifier ça de déception chez les Bruins? Est-ce qu'on a une explication pour, je veux dire, quand même ton entraîneur est rendu à te mettre sur la sellette, là, mais...
Sur le spot.
Sur le spot, moi, là, j'allais dire « call it out », mais là, je ne voulais pas y aller en anglais, donc on va dire « sur le spot ». Mais oui, bon, justement, Pasternak qui termine les séries éliminatoires avec 8 points en 13 matchs. C'est pas seulement contre les Panthers que ça n'a pas été un succès. Contre les Maple Leafs aussi, ça a été difficile. Réagis-vous comment là, face à ça?
Je pense que quand tu regardes le portrait d'ensemble, je pense que Pasternak, c'était difficile de se démarquer parce que le plan de match de l'adversaire tournait vraiment autour de son trio. Parce que tu regardes les autres trios des Bruins, oui, il y avait des éléments à surveiller, mais pas de la trempe de Pasternak. Donc, je pense que tous les efforts de la formation adverse étaient mis vraiment sur David Pasternak. Puis ça complique évidemment la vie de l'attaquant tchèque. Puis... C'est ça, on l'a pas vu vraiment avoir des flashs dominants dans la série contre les Panthers. C'est vraiment de longues séquences où il s'empare de la rondelle puis il réussit vraiment à contrôler le jeu. Les Panthers ont fait un excellent travail contre lui. Même chose pour les Maple Leafs au premier tour. Là, tu sais, la paire de Simon Benoit et Jake McCabe l'avait vraiment muselé dans cette série-là. On le frappait durement. Pour moi, c'est pas seulement une question de David Pasternak. Je pense que c'était. Il n'y avait peut-être pas assez d'éléments autour de lui pour faire en sorte que la défensive adverse concentre ses efforts un peu partout. Là, c'était vraiment David Pasternak, on le tient en échec. Brad Marchand. Après ça, Jake DeBrus qui a connu de très bonnes séries. C'est lui qui a fini meilleur pointeur chez les Bruins, mais c'est pas un joueur de la trempe de Pasternak. Donc je pense que c'est ce qui a compliqué sa
aussi,
vie.
Les gars. Qui a marqué le but vainqueur en prolongation dans le 7e match contre les Maple Leafs? On a beau critiquer David Pasternak, c'est quand même Pasternak qui l'a mis dedans au moment le plus important pour les Bruins de Boston. Puis je crois que les Bruins, tout reposait sur Jeremy Swayman. Pour moi, ça a été les séries où Swayman prend maintenant le relais. Je pense que Linus Ullmark, son avenir se retrouve peut-être maintenant davantage ailleurs qu'à Boston. La rotation là, catégorique où un match entre Swayman et Ullmark, possiblement à revoir. En série, on a décidé de donner le relais à Swayman, lui dire « Tu es le gardien numéro un des Bruins de Boston. » C'est lui également qui est le plus jeune des deux gardiens. Oui, ils cohabitent bien ensemble. Oui, c'est cute de voir les petits câlins qui se font après chacun des matchs, chacune des victoires des Bruins. Mais tôt ou tard, je crois qu'on devra miser sur un seul cheval. Et le cheval de course va être Jeremy Swayman pour les Bruins.
Ce que je me demande, bon, il reste une année à faire contre Ullmark qui va être joueur autonome sans compensation. Il ne fait pas un immense salaire non plus, c'est pas un 10 millions.
5 millions, de mémoire.
5 millions, si je ne me trompe pas. Si t'es les Bruins, tu peux obtenir quoi pour ce gardien-là cet été?
Ben, il va y avoir plusieurs équipes qui vont chercher des gardiens. Est-ce qu'ils oseraient échanger Ullmark au sein de la même division? Je pense rapidement aux Maple Leafs de Toronto. Je serais surpris. Les Sénateurs d'Ottawa, tous les ans, se cherchent un gardien. Les Kings de Los Angeles, même histoire, si on regarde dans l'Ouest. Il va y avoir un marché, assurément. Qu'est-ce que tu peux obtenir? Le marché des gardiens est toujours difficile à juger.
C'est ça.
C'est rare qu'on obtienne la lune pour un gardien. Mais c'est un contrat qui est quand même abordable. Tu n'as pas non plus un lien d'attachement trop fort. On parle d'une seule saison. Possible aussi de le prolonger immédiatement. Mais avant le repêchage, je ne serais pas surpris de voir les Bruins obtenir quand même probablement un choix de premier tour. Là, entre 15 et 32, c'est possible de croire que Ullmark va rapporter un choix de premier tour aux Bruins de Boston. Peut-être que je fais erreur, mais c'est un gardien qui a de très bons chiffres depuis 2-3 ans. C'est un gardien qui est fiable aussi. Et à mes yeux, il y a plusieurs équipes qui ont besoin de renforts à la position de gardien.
Mais visiblement, probablement pas des renforts. On pense au centre, là. Je pense que c'est la faiblesse des Bruins. Là. Mais pas de renforts à court terme. Il n'y a pas une équipe dans la course pour la Coupe Stanley ou pour. Tu sais, tu as parlé des Kings. Je vois pas les Kings donner un centre, tu comprends? Ou je vois mal aller chercher un élément qui va te permettre d'être meilleur tout de suite contre Linus Ulmark.
Possible, mais il y a une équipe qui a trop d'attaquants avec de trop gros salariés qui joue à quelques kilomètres de Boston, les Maple Leafs. Est-ce qu'on pourrait voir une danse entre Toronto et Boston? On est dans la grosse spéculation.
Oui,
là.
Bien évidemment.
Il n'y a aucune information qui reste là, le béton par rapport à ça. Ça peut être possible. Don Sweeney est un bon DG, c'est un DG intelligent. Mais s'il va chercher un choix de premier tour, peut aussi monnayer ensuite ce choix de premier tour-là dans l'espoir d'obtenir du renfort à l'avant. Tantôt, on parlait de Pastrnak, qui a quand même été plus au ralenti que sa production de la saison régulière. Mais Pavel Zacha n'a pas non plus roulé sur l'or en série offensivement, puis Charlie Coyle non plus. On parle quand même des deux premiers centres des Browns. C'est vrai que c'est une équipe qui aura besoin de regarder.
Ils sont pas dans le bon siège, on s'entend.
Non, ils ne sont pas dans le bon siège, mais pour moi, ils ont fait des miracles pendant 82 matchs. Cette équipe-là a réussi à maintenir là, un dossier resplendissant dans l'après Bergeron-Krejci. Oui, on a peut-être bouché le trou à court terme, mais à long terme, je suis entièrement d'accord. Les Browns auront besoin d'un centre de renom plus solide que Zacha ou Coyle.
Je pense que, en ce moment, la fenêtre des Browns est ouverte, puis je pense qu'on veut la garder ouverte aussi. C'est pas une équipe qui a une banque d'espoir qui déborde non plus. Là. Il n'y a pas grand-chose qui s'en vient. Donc, pour cette équipe-là, ça va être d'essayer de patcher les trous pour l'an prochain, comme ils ont fait cette saison. Tu sais, ça a bien fonctionné. On est allé chercher quelques éléments à gauche, à droite, des gars qui ont du bon millage dans la ligue, puis qui ont réussi à faire le travail, comme Jean-François disait, mais ça va être de poursuivre dans cette lignée-là parce que je vois pas cette équipe-là commencer à échanger des joueurs comme Ulmark pour des choix au repêchage puis se contenter de ça. Là. On a besoin de joueurs qui sont rendus établis dans la Ligue nationale qui peuvent avoir un impact dès l'an prochain. Donc, surtout que Jeremy Swayman arrive dans son prime qui va être autour de 27 ans. Là. Donc, c'est un gardien de 25 ans quand même assez jeune. J'ai vraiment été impressionné par sa tenue, non seulement devant le filet, mais avec les médias, ses interactions avec nous. Là, c'est un gars qui est vraiment terre-à-terre, qui est beaucoup dans la reconnaissance. Là, honnêtement, il a le sourire dans le visage. Puis je pense que c'était le matin du match numéro 6. J'étais avec Renaud Lavoie, puis on jasait avec Swayman autour de son casier. C'était pas une entrevue formelle, il n'y avait pas de caméra. On faisait juste comme échanger, ce qui est quand même assez rare. Là. Je sais que Jean-François aime souligner quand des gardiens parlent un matin de match.
Absolument. Swayman rentre dans ma catégorie des héros parmi les gardiens de but.
C'est ça, il racontait à quel point, pour lui, c'est comme un cadeau, là. Tous les jours, c'est un cadeau d'arriver dans un vestiaire de la Ligue nationale, d'avoir la chance de jouer en série au TD Garden. Puis je sais pas si à la télé, on le voyait, mais tu sais, pendant la Ligue nationale, là, il passait son temps à regarder la foule de gauche à droite, le gros sourire.
Ben
il était
nerveux,
comme
là, c'est ça.
Moi, je vis le rêve. Puis il y a une photo qui a circulé juste avant ce match-là, juste au moment où l'Hymne nationale se termine, puis il retourne à son filet pour enfiler son masque. Il y a la caméra qui est vraiment un appareil photo qui est vraiment aligné avec lui. Le gros sourire, regarde directement dans la caméra. Le match va commencer dans 30 secondes, là, mais il est vraiment dans l'appréciation du moment. Puis il n'a pas l'air de s'en faire plus qu'il faut avec la pression, les ci, les ça. Il y a du plaisir à jouer. Puis je pense que cette mentalité-là, je pense que ça peut faire un bon bout de chemin. Quand tu vois le talent qu'il y a sur la glace, s'il est aussi fort que ça mentalement, puis que cette approche-là, je pense qu'on a peut-être juste vu la pointe du iceberg dans le cas de Jeremy Swayman.
Mais Guillaume, tu parlais que c'est un cadeau pour Swayman de jouer en série, qui est heureux du moment, mais le cadeau, il va en recevoir un aussi bientôt avec son prochain contrat. C'était 3,475 millions, je crois, cette année pour Jeremy Swayman. Logiquement, les Browns devraient lui offrir un contrat à long terme, possiblement du 7 millions par année pour 6-7 saisons. Si Swayman débarque à 7 millions la saison prochaine, je ne suis pas le plus grand des mathématiciens, mais 7 plus 5, ça donne 12. 12 millions, c'est beaucoup trop devant le filet. Donc, encore moins de chances de revoir le sympathique Suédois Ulmark à Boston.
Si la série entre les Bruins et les Panthers s'est terminée en 6 matchs, ben celle aussi entre les Hurricanes et les Rangers.
Rangers.
Par contre, une série complètement différente de celle des Bruins. Ça a été tellement serré, quoi. C'est presque tous les matchs qui sont décidés par un seul but. On a eu des remontées, on a eu de l'action. Mais ce qui a fait la différence dans cette série-là, c'est l'inhabilité des Hurricanes de profiter de leurs unités spéciales, ce qui avait été la force de cette équipe-là en saison, premier en désavantage numérique, deuxième en avantage numérique. Quand tu as une série aussi serrée que ça, puis tu ne profites pas de ces petits moments-là où tu peux aller chercher un but ici et là, écoutez, on a terminé en avantage numérique, les Hurricanes, là, 9,5% dans cette série-là et en désavantage numérique, 73,7%. T'sais, c'est des chiffres qui sont vraiment décevants et c'est ce qui a fait la différence dans cette série-là.
Oui, puis c'est une série qui a été comme un contrepoids, on dirait. Les Rangers ont réussi à gagner les trois premiers matchs sans toutefois dominer outrageusement les Hurricanes. Il y a eu le retour du balancier avec deux victoires d'affilée pour la Caroline. Là, on commençait à se dire, est-ce que c'est possible de voir une remontée miracle des Hurricanes? Rod Brind'Amour disait toujours, oui, les Rangers mènent 3-0, mais ils ne nous dominent pas, donc il s'attendait à voir son équipe rebondir. C'est vrai que les unités spéciales ont pu faire la différence dans cette série. C'était deux très bonnes équipes, deux équipes avec beaucoup de profondeur aussi, mais je crois que les Rangers, ça peut réellement être l'année des Rangers de New York. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette formation. Shesterkin est très, très bon aussi depuis le début des séries, même probablement depuis le mois de février. Shesterkin est peut-être le meilleur gardien de la Ligue nationale de hockey. Rangers ont eu peur. C'est peut-être une bonne chose aussi. Il y avait eu le coup de balai au premier tour. Si jamais les Rangers avaient eu à balayer aussi les Hurricanes, oui, on aurait parlé d'une longue période de repos. C'est bien pour les bobos, etc. Mais de se cogner les dents un petit peu, c'est toujours bon en série parce que contre les Panthers, attache ta tuque, là, ce ne sera pas facile. On parle de deux très bonnes équipes. Je m'attends à une longue série entre New York et la Floride.
Oui, puis j'ai beaucoup aimé parce que, oui, effectivement, à 3-0, c'est propice pour les Rangers de lever le pied un peu. Il fallait s'y attendre. Mais j'ai aimé comment, dans la fameuse troisième période du sixième match, à quel point on a changé de vitesse puis on a passé à la vitesse supérieure, ce qui a permis à Chris Kreider de marquer trois buts consécutifs, d'aller chercher ce match-là. Là, je pense qu'on a peut-être un peu plus vu les vrais Rangers. Tandis que dans le reste de la série, surtout à 55, les Hurricanes ont clairement été la meilleure équipe dans cette série-là. Donc, il y a peut-être eu cette petite claque-là là, qui va faire que la troupe de Peter Laviolette va arriver peut-être plus un peu plus sur les... pas sur les talons, mais plus alerte un peu contre les Panthers. Dans cette série-là aussi, je veux souligner quand même, on a beaucoup parlé d'Alexis Lafrenière, mais Vincent Trocheck là, et Chris Kreider, tu as deux gars taillés pour les séries. Moi, je pense que ça peut aller très loin avec ces deux gars-là. Deux gros bonhommes, deux bonhommes qui prennent de la place sur la glace. Puis on l'a vu, là, Trocheck, je pense que c'est le meilleur marqueur de son équipe. Je pense qu'il y a 14 quelques points là, depuis le début des séries avec les Rangers.
Ben, les deux premiers trios des Rangers, on regarde les statistiques, ils ont 5 attaquants qui roulent un rip d'un point par match. Zibanejad, Trocheck se partagent le sommet à 14 en 10. Panarin suit avec 11. Lafrenière, 4 buts, 6 passes, 10 points. Chris Kreider, 7 buts, 3 passes. Chris Kreider, dans le sixième match, qui marque un tour du chapeau en troisième période. Dans un marché comme Montréal, on en parlerait pendant 22 ans de ce match-là. À New York, il y a d'autres équipes, il y a d'autres sports, on peut relaxer un petit peu. Mais Kreider, c'est un joueur de série, c'est un attaquant de puissance, c'est un patineur extraordinaire. C'est un gars avec de l'expérience aussi. Là. Chris Kreider était là en 2014 contre Carey Price, contre le Canadien.
Ah, roule sa bosse à Montréal. Depuis... Le monde à Montréal n'ont pas oublié ça.
Non, ça, on ne l'a pas oublié, mais
non, il roule sa bosse depuis longtemps. C'est l'anniversaire de cet incident-là assez récent.
Ouais, 10 ans. 10 ans déjà, donc ça va vite. Puis Vincent Trocheck aussi, dans l'aspect émotion, au dernier tour, au deuxième tour, jouait contre les Hurricanes de la Caroline, une de ses anciennes équipes. En finale de l'Est, joue contre les Panthers de la Floride, une de ses anciennes équipes. Trocheck est un joueur complet. Peut-être qu'on l'a sous-estimé à l'époque. Les Hurricanes n'ont pas voulu le payer. A choisi de partir pour le marché des joueurs autonomes. Les Rangers ont réalisé une bonne prise. Premier, deuxième trio, tu peux interchanger. Ils sont aussi forts. Le top 6, c'est vraiment très, très puissant pour les Rangers. Puis ensuite, ils ont de bons joueurs de rôle pour freiner. Mais j'ai hâte de voir. Les Panthers aussi, là, on parle d'une équipe qui est très, très bien équilibrée. Puis Alexander Barkov connaît pas de mauvaise série, je dirais, depuis le début. Donc, Barkov peut se donner comme mission de freiner les Panarin, Zibanejad et compagnie. Donc, j'ai hâte de voir.
Avant de tomber là-dedans, je vais juste parler un peu des Hurricanes. Il y a des grosses décisions qui s'en viennent. Jake Gunzel, joueur autonome sans compensation. Brett Pesci, joueur autonome sans compensation. Brady Shea, c'est la même chose. Bon,
ça va te prendre du temps à faire la liste, Nick.
Ouais, c'est ça. Et on rajoute. Et on rajoute, et on rajoute à tout ça Martin Nekash, qui lui, c'est bon, avec compensation, mais visiblement, on commence
Seth
l'émergence
Jarvis
de Seth Jarvis. Comment?
Seth Jarvis.
Ben, c'est ça. L'émergence de Seth Jarvis fait que Nekash est peut-être un peu plus échangeable là, en bon français, là, peut-être j'ai juste expendable comme terme. Là, peut-être qu'on va pouvoir se passer de Nekash pour obtenir d'autres choses dans une transaction. Mais oui, l'été va être très occupé. Est-ce que cette porte-là chez les Hurricanes vient lentement de s'être refermée? Ou du moins, on va présenter une formation qui va probablement être moins intéressante dans l'année prochaine?
Moi, je pense que la porte, tranquillement, ça. Je ne sais pas si c'est complètement refermé, là, mais c'est certain que ce sera pas. Cette équipe-là ne va pas montrer le même visage l'année prochaine. Dans les dernières années, c'était vraiment une équipe qui misait sur les jeunes espoirs en progression de l'organisation. Mais là, on est rendu au point où il faut payer ces espoirs-là. Puis je pense que c'est toujours le virage là, pour une équipe. Quand on arrive à ce point-là, ben là, c'est de prendre des décisions importantes. On a aussi, tu sais. Il y a la rumeur qui persiste là, d'un peut-être un rachat du contrat de Jesperi Kotkaniemi après une saison vraiment difficile.
Ouais.
Puis des séries, je dirais encore plus difficiles. Je pense qu'hier, il a qualifié ça. Il a qualifié sa saison de merdique, le bon kéké. Ce qui est très approprié comme terme, je crois. Donc ça fait partie aussi des options que le DG a là-bas. Mais je pense pas que la fenêtre est complètement refermée, surtout avec un entraîneur comme Rod Brind'Amour qui est capable d'aller soutirer le meilleur de ses joueurs année après année, qui viennent de signer une prolongation de contrat. Mais je pense que ça va peut-être être plus difficile dès l'an prochain là, pour cette équipe-là de se tailler une place parmi les meilleures équipes de l'Est. Là. C'est un gros été qui s'en vient du côté de la Caroline.
Moi, je pense que le premier morceau du casse-tête, Guillaume l'a effleuré, là, mais la signature de Rod Brind'Amour pour les Hurricanes, c'est un soulagement. Il y a tellement d'équipes qui se cherchent des entraîneurs. Si les négociations devaient achopper entre les Canes et Brind'Amour, il aurait pu choisir de partir. Donc, de solidifier la position de l'entraîneur, c'est fait. Je crois que mathématiquement, un rachat pour Kotkaniemi au tiers du contrat devient pratiquement une priorité. Les Hurricanes ont voulu se venger à l'époque avec l'offre hostile à Sébastien Aho. Probablement que le proprio, M. Dundon, n'était pas content. Pas convaincu que c'était le choix de Don Waddell d'attirer Kotkaniemi en Caroline. Mais 4,82 millions pour encore plusieurs saisons. Là, 6 autres années, je pense, dans le cas de Kotkaniemi, c'est beaucoup trop. Moi, je m'amuse souvent à dire que si on peut inclure un agent au temple de la renommée,
je vote savais que ça semble
l'agent de Jesperi Kotkaniemi. C'est hallucinant ce contrat-là pour un joueur qui n'avait jamais démontré qu'il pouvait être un attaquant dominant. Mais bon, on s'éloigne. Ils auront besoin de retrouver Martin Nekash, besoin de retrouver Seth Jarvis, des joueurs autonomes avec compensation. Donc, c'est moins inquiétant. Mais sinon, la fenêtre. L'année prochaine, il reste seulement une saison à Jacob Slavin. Il reste une saison à Dmitry Orlov. Une seule saison à Brent Burns. Donc, la ligne bleue, ça va commencer à être mince très, très, très rapidement. Les Canes doivent gagner rapidement. Le noyau est encore là, mais je ne suis pas convaincu que cette équipe-là peut aspirer pour encore 3-4 ans.
Il y a toujours la question des gardiens aussi, là, je pense.
Ouais,
c'est
ça,
de la Caroline, c'est toujours un gros point d'interrogation. Puis je pense que Kenderson n'a pas répondu nécessairement aux attentes contre les Rangers. Donc,
peut-être que la bonne nouvelle pour eux, c'est que Gunzel a quand même été clair, mais clair. Ça, on peut toujours. C'est le classique aussi de dire que je veux rester avec l'équipe où je finis la saison. Mais si jamais ils peuvent offrir un contrat à Jake Gunzel, un salaire décent, 6, 7, 8 millions qui rentrerait dans les cordes de l'équipe, on parle quand même d'un attaquant là, de près de 80 points par saison.
Juste pour expliquer pour les gens, bon, on parlait du rachat de Kotkaniemi au tiers du contrat, c'est-à-dire qu'il y a dans la convention collective une possibilité de racheter pour un joueur qui a moins de 24 ans, là, si je ne me trompe pas, là, ou 24 ans et moins, là, un des deux, bon, on peut racheter un contrat au tiers de la valeur du contrat et non pas aux deux tiers comme un joueur normal. Donc, si on regarde un peu l'impact sur la masse salariale sur de l'équipe, sur le plafond salarial, ben, au lieu d'être 4,8 millions pour les 6 prochaines années, ben, ce serait pour les 12 prochaines années, mais ce serait entre 455 000 et 835 000. Donc, quand tu es une équipe qui a beaucoup, beaucoup de joueurs signés contre comme les Hurricanes, ben oui, la possibilité, à mon avis, elle est là.
Ça, Nick, c'est 26 ans et moins.
Donc, c'est 26 ans et moins, bon.
Ouais, okay. Il y a encore du temps, mais bon. Je pense que tu peux avoir la réponse déjà avec Kotkaniemi, mais malgré qu'il est encore jeune à 23
c'est
ans,
ça,
Kéké va
ça.
Être encore jeune à 31, encore jeune à 32, mais il sera peut-être encore jeune en Finlande à 32 ans. Il va être un petit peu moins jeune au niveau de la Ligue nationale.
Hey, on avance, parlons-en, bon, de la finale de l'Est. On a fait le tour de ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui s'en vient à partir de mercredi, la série qui commence du côté de New York. Ces deux équipes, quand même similaires quand je les regarde. Bonne défensive, trois défenseurs au minimum capables de bouger la rondelle. T'as un Trocheck qui me fait penser à Bennett. T'as un Tkachuk qui est un peu comme un peu de Kreider. T'as un Reinhardt qui est capable de la mettre dedans. De l'autre bord, t'as un Panarin. Il y a plusieurs similarités. Des gardiens, deux gardiens russes en plus. Donc, il y a plusieurs similarités entre les deux équipes. Je suis très mal placé présentement pour décider qui va l'emporter. Je ne sais pas pour vous autres.
Écoute, ça peut être un paquet d'impondérables qui va l'emporter. Peut-être l'équipe qui va rester le plus en santé, l'équipe qui va réussir à rouler en avantage numérique. Les Rangers, depuis le début des séries, ça va très bien de ce côté-là, mais j'ai peur de parier, comme on disait tantôt, contre Alexander Barkov, contre Matthew Tkachuk, Carter Verhaeghe, qui est toujours là dans les matchs importants. Bennett, on dirait qu'on le découvre encore plus. Si Brad Marchand est une bonne peste, Sam Bennett se débrouille bien aussi dans cette catégorie-là. J'en parlais au dernier balado, mais j'aime le dernier trio. Paul Maurice peut choisir pratiquement entre 5 cartes différentes entre Lundberg, Kevin Stenlund, Nick Cousin, Steven Lawrence, Kyle Oposo, dépendamment des équipes, dépendamment s'il veut plus de rapidité, plus d'expérience, plus de chiens. Beaucoup de choix du côté des Panthers, mais c'est la même histoire du côté des Rangers aussi. Là, c'est une équipe qui est très, très, très bien équilibrée. J'ai hâte de voir le duel aussi entre Shesterkin puis Bobrovsky. Qui va avoir le meilleur? Shesterkin, depuis le début des séries, est très, très, très bon. C'est un duel d'amitié aussi entre Artemi Panarin puis Sergei Bobrovsky, deux anciens coéquipiers du côté des Blue Jackets de Columbus. Bonne série. Probablement une longue série, celle entre les Rangers et les Panthers.
Guillaume, t'en as parlé un peu, mais t'as pensé quoi quand tu couvrais la série? T'as pensé quoi de la performance de Bobrovsky? Il fait des gros arrêts, mais est-ce que c'est un cas où il ne faut pas seulement regarder les statistiques? Parce qu'il y a eu des moments dans la série avec les Bruins là, où il devait avoir les orteils gelés là, parce qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup d'action.
Oui, exactement. Je pense qu'il y a eu trois matchs là, de 15-17 lancés, hein, quelque chose comme ça. Là. Pour un gardien, oui, ça peut être un défi dans le sens où tu es inactif pendant une longue période puis il faut que tu répondes à l'appel quand la chance vient. Mais de mon côté, oui, je pense que si tu me donnais le choix, c'est sûr que j'y vais avec Shesterkin pour bâtir une équipe gagnante. Mais Bobrovsky, dans le match numéro 6 contre les Bruins, en deuxième période, c'était 1-0 pour les Bruins. Il a réalisé trois gros arrêts, là, dont un en échappé directement au début de la période, des arrêts à bout portant. Puis, à ce moment-là, c'était exactement ce dont les Panthers avaient besoin parce que tu ne veux pas tomber en retard 2-0 dans un match 6 à Boston quand l'autre équipe a la chance de pousser la série en 7. Fait que, tu sais, j'ai quand même été un peu rassuré parce que c'est vrai qu'au début de la série, moi, je donnais l'avantage à Swayman. Mais au fur et à mesure que ça avançait, là, vraiment, Bobrovsky a été quand même convaincant, même si la charge de travail n'était pas nécessairement débordante. Là. Ouais, non, ouais, c'est ça, immense. Mais non, il a fait le travail, puis je pense que les doutes sont un peu dissipés là, à l'aube du début de la finale de l'Est. Mais si tu me demandes de choisir un cheval entre Bobrovsky et Shesterkin, je donne l'avantage aux Rangers avec Shesterkin.
Oui, mais Bobrovsky a quand même conduit son équipe en finale de la Coupe Stanley l'an dernier. C'est un gardien qui a l'expérience. Shesterkin n'a pas encore vécu une finale. Donc, c'est. Écoute, on parle de deux bons choix, mais si on regarde juste les chiffres, sa moyenne du côté de Bobrovsky est à 2,37, si je ne me trompe pas, dans ces eaux-là.
Mais je pense qu'il est à 895 au niveau du pourcentage.
Bobrovsky est revenu à 902. 902 et 2,37. Bon, donc, 8 victoires, 3 défaites. C'est loin d'être catastrophique. Shesterkin, 9,23, 2,40. 8 victoires, 2 défaites. Mais si on regarde juste les chiffres, pour un gardien, les chiffres les plus hallucinants, c'est Joseph Wall. Il est à 964 de taux d'efficacité en 3 matchs. 0,86. Mais Joseph Wall, en ce moment, il regarde les séries sur son divan parce que son équipe ne marquait pas de but. Donc, tu as besoin d'un tout, tu as besoin d'un ensemble. Des fois, je me demande si la position de gardien n'est pas la plus surévaluée en série. Il y a tellement d'histoires miracles aussi avec les gardiens.
Les Golden Knights l'année dernière en sont la preuve.
Ouais, mais en même temps, souvent, un entraîneur va te dire « Nomme-moi un bon entraîneur, je vais te nommer un bon gardien. » Donc, les deux viennent ensemble. C'est vraiment, je pense, c'est l'équipe. C'est probablement le sport où, au basket, tu peux gagner avec 3 joueurs étoiles. Au hockey, c'est impossible. Tu as vraiment besoin d'une belle profondeur. Comme disait Jacques Martin, j'ai toujours aimé la sagesse de Jacques. Quand il décrivait une bonne équipe, il disait « Ils ont 4 bons trios, 6 bons défenseurs, 2 bons gardiens. » C'est un petit peu ça au hockey. Jacques, beaucoup d'expérience. Pas pour rien qu'il arrivait avec cette formule mathématique-là.
Tantôt, les gars, je faisais la liste des joueurs des Panthers puis des Rangers, mais il y en a un que je n'ai pas nommé, puis c'est Alexander Barkov. Puis moi, c'est vraiment le facteur X de cette série-là.
Absolument.
Vient d'être nommé gagnant du trophée Selke. À mon avis, si les Panthers se rendent en finale, c'est le candidat numéro 1 pour le trophée Conn Smythe. À quel point ce joueur-là va avoir un impact majeur sur la série quand vient le temps d'arrêter, peu importe le trio auquel on va l'opposer, parce que comme on a dit, le premier ou le deuxième trio des Rangers, c'est la même chose, c'est la même force de frappe. Là. Mais à quel point Barkov peut jouer un rôle majeur dans cette série-là?
Ouais, ça va être un accessoire déterminant pour les Panthers dans cette série-là, il n'y a aucun doute. C'est un gars, oui, qui défend, mais je veux dire, tu regardes ses stats, 5 buts, 8 passes en 11 matchs, il est à 13 points. Donc, il produit aussi, en plus de défendre, c'est je ne sais pas comment tu fais ça. Le jeu qu'il a fait en fin de match là, contre les Bruins a fait un arrêt sensationnel de la mitaine là, avec la paume de sa main. Je suis quand même curieux de voir si ça n'aura pas laissé des traces. Là. Du côté des Panthers, on dit que tout est beau et tout ça. Là. Mais en série, la barre pour ce qui est correct et ce qui n'est pas correct est repoussée. Là. Les limites sont repoussées. Donc, j'ai hâte de voir si Barkov va être au sommet de son art après ce jeu-là. Mais tu sais, c'est un joueur qui est toujours à la bonne place au bon moment, qui est toujours conscient de ce qui se passe autour de lui. Il anticipe le jeu comme j'ai rarement vu un joueur le faire. Donc, c'est certain que ça va être la pièce maîtresse pour les Panthers dans cette série-là, surtout contre une attaque qui fonctionne à plein régime. Là. Tu vas avoir besoin de ton gros joueur défensif comme Alexander Barkov.
Oui, pour moi, Barkov me fait vraiment penser à Andy Kopitar aux très belles années des Kings de Los Angeles. C'est le même type de joueur qui gagne les mises en jeu, joue en infériorité numérique, roule offensivement, intelligent, va se sacrifier pour l'équipe. Les Kings, c'est quoi? C'est 2014-2012, les deux conquêtes, si je ne me trompe pas.
Entre ça, des Blackhawks. Là.
Exact. Donc, Barkov est aussi important. Paul Maurice le disait, je crois. Il disait, si tu achètes un chandail d'Alexander Barkov à tes enfants, tu ne te trompes pas. Puis, encore une fois, des paroles sages d'un entraîneur. Moi, ma plus jeune Zoé a un T-shirt, parce qu'un chandail, c'est trop cher. Mais un T-shirt des Panthers avec le numéro 16, Barkov dans le dos. Elle me demande souvent c'est qui, lui, parce qu'elle ne suit pas trop le hockey. Mais là, maintenant, je peux lui dire, Paul Maurice t'a fait dire, Zoé, que c'est un très bon choix.
Jeff, tu le sais que maintenant que tu es à la LNH, tu as un rabais employé hein, pour acheter de la mémorabilia. Là, donc, je te donnerai le code.
De
là,
la mémorabilia.
De la mémorabilia.
C'est comme la mauvaise herbe aussi, les enfants, ça pousse vite. Donc, ouais. Si tu achètes un chandail quand ils sont trop jeunes, il fera plus longtemps. Donc, un petit chandail pour les dodos, puis pyjama, le t-shirt, c'est parfait.
Mais Paul Maurice disait ça dans le contexte que c'est une bonne personne. Il disait,
exact.
C'est le capitaine idéal pour notre équipe parce qu'on a plusieurs caractères différents dans la chambre. Il parlait d'un gars comme Matthew Tkachuk qui est cocky un peu, qui prend de la place. Ouais, c'est ça, exact. On a des Nick Cousins et compagnie. Il dit Barkov s'entend bien avec tout le monde. C'est lui qui fait que la sauce prend dans ce vestiaire-là. Puis il dit il traite tout le monde exactement comme si c'était son compagnon de trio sur le premier trio de l'équipe, que c'était le joueur le plus important. Il dit que ce soit le 13e, 14e, 15e attaquant, il dit avec Alexander Barkov, t'es toujours traité de la même manière, de la bonne façon. Puis c'est pour ça qu'il dit, si tu donnes ça en exemple à tes enfants, ben tu fais un excellent choix. Mm-hmm. Puis ça fait juste ajouter au personnage, là, au joueur qu'on voit sur la glace, mais en sachant que c'est une bonne personne puis quelqu'un qui prend soin de ses coéquipiers, ben ça fait juste en ajouter un peu.
Et le plus fascinant, c'est que chaque année, quand on fait l'association des joueurs fait le sondage avec les joueurs, chaque fois qu'on dit c'est qui le joueur le plus sous-estimé, c'est Barkov qui gagne, ou je sais pas cette année, mais il me semble que lors des deux dernières années, trois dernières années, peut-être qu'on est même juste, on fait juste commencer à réaliser à quel point ce joueur-là est bon. Peut-être qu'avec le trophée Conn Smythe, on va officiellement reconnaître là, qu'il est bon. Là. Mais bon, là, on regarde peut-être un peu trop loin dans le futur parce qu'avant ça, il faut savoir qui va l'emporter dans cette série-là. Donc, messieurs, j'écoute vos prédictions.
Écoute, moi, je vais y aller. Rangers en 7.
Je m'en allais là aussi. Je viens d'y réfléchir, mais non, je me dis ça va aller à la limite. On va être au MSG. Avec une place en finale à l'enjeu, je pense que je donne l'avantage aux Rangers dans ce match-là, mais pour vrai, ça va être une guerre de tranchées.
Je vais pas aller contre vous. Ouais, Rangers en 7, mais oh, c'est... le facteur X, vraiment Barkov, là, j'ai hâte de voir. Ça et les gardiens, je pense que c'est là que ça va jouer dans cette série-là. Donc, c'est finale d'association, ça commence mercredi. 20h, les Panthers qui seront au Madison Square Garden pour affronter les Rangers. Et la série dans l'Ouest entre les Oilers et les Stars commence à Dallas le lendemain jeudi. Donc, ça va être à suivre le tout sur lnh.com. Messieurs, vous allez être sur la route pour couvrir le tout. Avant de vous laisser partir, messieurs, je voulais obtenir votre opinion. Les Maple Leafs qui ont embauché Craig Berube comme nouvel entraîneur-chef. Est-ce que c'est l'entraîneur qui va enfin mener les Maple Leafs à la terre promise ou est-ce que c'est un autre nom qui va s'ajouter à tous ceux qui sont passés depuis 1968 et qui n'ont pas réussi à amener la Coupe Stanley à Toronto?
Mais la terre promise, pour moi, reste encore lointaine, mais je suis content. Content ou pas content, on s'en fiche. Mais je crois que c'est un bon choix. C'est un bon choix, Craig Berube. C'est un vieux de la vieille, assez dur. Mitch Marner, qui des fois ne veut pas y aller, là, décide de ne pas aller dans le coin de la patinoire avec Craig Berube. Il va y aller dans le coin, il va foncer, mais il va y avoir d'autres décisions importantes pour Trey Living, Berube, Shanahan. Qu'est-ce qu'on fait avec le fameux top 4? Est-ce que les 4 vont revenir? Mais j'ai comme principe aussi que quand tu piges dans le cours de Saint-Louis, tu ne peux pas te tromper. Les Blues restaient une belle organisation. Berube a gagné en 2019. J'ai hâte de voir ce qu'il peut faire avec les Maple Leafs de Toronto, mais pour moi, c'est un choix plus qu'intéressant, Craig Berube.
Je pense que c'est ce que les Leafs ont besoin, là, d'un entraîneur un peu plus dur, peut-être, parce que Sheldon Keefe était beaucoup dans la communication, la compréhension, un peu un entraîneur nouveau genre, là, mais j'ai l'impression que pour cette équipe-là en particulier, d'avoir un peu de poigne derrière le banc puis d'avoir un entraîneur qui en demande beaucoup puis qui est exigeant puis que si ça ne fonctionne pas à son goût, va te le laisser savoir. Je pense que c'est rendu à ce stade-ci, je pense que c'est ce dont les livres ont besoin. Puis ça, c'était comme écrit dans le ciel depuis, depuis le congédiement de Sheldon Keefe. Là, on parlait beaucoup de Craig Berube. Puis je pense que c'est la personne toute désignée, mais j'ai hâte de voir si on va lui donner pas carte blanche, mais sûrement qu'on va le consulter là, parce que les décisions, il y a des décisions importantes à prendre cet été. Là, mais je pense que c'est le genre d'entraîneur avec sa feuille de route qui va pouvoir donner son avis sur OK, je regarde la formation, tel joueur, ça fit dans mes besoins, dans mes exigences. Peut-être qu'un autre, on peut s'en passer. Donc, on amène une autre tête qui va pouvoir se pencher sur la création là, de cette équipe-là.
Ouais, puis on parle, tantôt Guillaume, tu disais Sheldon Keefe, t'es peut-être un entraîneur davantage dans la communication. Vrai, je suis d'accord. Berube a la réputation d'être plus dur, mais c'est aussi un entraîneur. Je me souviens en 2019, quand ils ont gagné la Coupe Stanley, David Perron disait que durant la saison, il y avait eu une bonne conversation avec Berube, que ça avait été une conversation difficile dans son bureau. On avait brassé le linge sale. Puis c'est un entraîneur qui a beau être dur, il est capable d'écouter aussi, capable de prendre le pouls de son vestiaire. Il y a de bons chevaux à Toronto. C'est une équipe talentueuse. Je pense aussi qu'on doit se décider d'y aller avec Joseph Wall comme gardien numéro un, donner le flambeau à Wall. J'ai hâte de voir. C'est un été qui va être vraiment très, très intéressant à Toronto.
Oui, j'ai hâte de voir aussi de qui il va s'entourer parce que cette année, ce qui a fait perdre son emploi à Berube à Saint-Louis, c'est entre autres les unités spéciales. Ça avait été très difficile pendant une longue partie de la saison en avantage numérique, en désavantage numérique aussi. Donc, j'ai hâte de voir qui va rester, qui va partir. On sait, il y a Guy Boucher qui est derrière le banc. Là. Bon, donc, le statut de tout le monde, là, présentement, est dans l'inconnu là, pour la suite. Messieurs, merci d'avoir été là aujourd'hui.
Merci à toi.
On vous laisse couvrir les séries. Bien évidemment, Guillaume, tu t'envoles dans les prochaines heures pour Dallas. JF, ben, t'es déjà à New York. Donc, vous allez respectivement couvrir les séries dans l'Est, dans l'Ouest. Pour ce qui s'en vient, on va pouvoir lire vos textes sur lnh.com. Donc, les gens qui nous écoutaient, ben, visitez le site web LNH, visitez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, sur LNH, sur Instagram, X et sur Thread. C'est LNH, barre de soulignement, FR. Et, ben, écoutez, si vous écoutez le balado et vous ne nous suivez pas encore, ben, ça serait le temps de le faire sur votre plateforme d'écoute, comme ça, quand il y en a un nouveau balado, comme c'est ce matin, vous ne le saviez peut-être pas là, aujourd'hui, mais on a un nouveau balado pour vous, donc vous êtes certain d'être averti lorsque c'est le cas. Guillaume, GF, merci encore d'avoir été là.
Ça fait plaisir.
Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.